Et cette musique, tu la reconnais?
Ah oui, bien sûr, c'est la Citroën C3 Music Touch.
Bien!
Profitez du meilleur de la musique dans votre voiture avec la série spéciale Citroën Music Touch. En janvier, bénéficiez de 5 500 € d'avantages clients sur Citroën C3 IHDI 90 Music Touch avec une tablette 10 pouces Samsung Galaxy Tab 2 et un an de musique. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation.
Citroën, créative technologie.
Offre non cumulable sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, bonus écologique de 200 € inclus dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroëncarstore.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire des marchés aux puces. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Une virée aux puces, voilà si vous voulez mon avis le secret d'un samedi ou d'un dimanche matin réussi. Nombreux sont ceux d'entre nous qui ont leurs habitudes ou tout au moins de bons souvenirs. Parmi les stands de marchands d'art réunis aux puces de Vanves, de Montreuil ou de Saint-Ouen, ce sont ces dernières évidemment que nous allons explorer aujourd'hui pour y chercher parmi tout un bric-à-brac d'objets, de meubles, d'étoffes, de livres, d'instruments, parmi les psychés, les somnos et les confidents, les flacons oubliés, les vieilles dentelles, parmi les ferrailles, pour y chercher, dis-je, quelques débris du temps.
Et vous avez invité pour nous servir de guide quelques habitués des puces de Saint-Ouen.
Oui, des piliers des puces, disons-le, à commencer par notre ami Jean Bedel qui leur consacre un très joli petit ouvrage. Habituellement, Jean Bedel vient ici pour nous parler de la mort de Zola. Eh bien, le voici cette fois dans son véritable élément, les antiquités, la brocante, le marché de l'art.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans les années 1950, le grand marchand Jacques Heft avait consacré un livre savoureux, ça a été mon livre de chevet à une époque, c'était passionnant, tout un livre au monde des antiquités, il avait baptisé ça « Vive la Chine ». Il ne parlait pas évidemment de l'empire du milieu, mais de cet art de flâner, de fureter, d'observer qui consiste à dénicher dans une galerie, sur un stand ou dans l'arrière-fond d'un entrepôt, cet objet plus ou moins relégué qui, une fois compris, nettoyé, mis en valeur, va retrouver sa force et son éclat. Les chineurs sont ces chasseurs d'un genre particulier qui arpentent sans fusil, je précise, enfin il vaut mieux, qui arpentent le maquis des brocantes, qui repèrent les objets, qui les sentent, qui savent feindre de les négliger pour mieux les saisir le moment venu. Leur terrain de chasse favori, celui qu'aucun salon, aucune foire ne détrônera jamais, c'est évidemment le marché aux puces. Je cite Jean Bedel. Les chineurs connaissent bien ce petit vent glacial qui s'engouffre à l'aube dans la rue Jules Vallès. C'est la brise des puces qui souffle encore le soir dans les venelles de Vernaison. Léo Larguier, familier des puces, fait remarquer que dans la rue Jules Vallès, je cite, « il fait 4 degrés de moins qu'à l'entrée du boulevard Ornano qui est pourtant à 500 mètres ». Mais les puces, poursuit Jean Bedel, connaissent aussi des heures tropicales, quand le promeneur cherche l'ombre des maigres tonnelles le long de la rue des Rosiers ou le souffle moite des allées couvertes du marché Serpette. Il n'y a pas de saison pour ceux qui aiment les puces et ils se comptent par millions depuis plus d'un siècle. Il faudrait élever une statue au chineur inconnu qui, en regardant ses étalages de ferraille, ses débris d'outils, ses meubles cassés, ses vieux lits, ses haillons et ses draps fripés, a dit un jour « ma parole, c'est le marché aux puces !» L'expression a plu. Elle a volé de bouche en bouche et d'une oreille à l'autre, nous dit Jean Bedel. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre de Saint-Ouen à Saint-Denis, de Montreuil à Bicêtre et à Vanves, où d'autres marchés sortaient du sol de banlieue déshéritée. Elle a fait le tour de Paris, elle a fait le tour du monde. Ça se passait entre 1880 et 1890. Affiches, cartes postales, chansons, de nombreux témoignages permettent de l'affirmer. Il est certain qu'à l'origine, tout au moins, l'expression marché aux puces est entachée d'un sens péjoratif. Qui se couche avec les chiens se lève avec les puces, dit un proverbe. Ce qui signifie que les mauvaises fréquentations ont des suites fâcheuses. L'idée de vermine accompagne les hardes, le linge, les vieux vêtements revendus par les chiffonniers que l'on soupçonne être porteurs de parasites en tout genre. Qu'importe, l'expression a prévalu, le marché aux puces. C'est drôle, C'est gai, c'est sautillant, c'est facile à prononcer, ça chante comme une note joyeuse dont l'esprit fait oublier l'origine matérielle. Une expression populaire, c'est comme la mayonnaise. Elle prend tout de suite ou ne prend pas, on l'essaie de bouche à oreille, on se la refile en riant et la mémoire collective la retient. Bref, les puces ont pris. Elles ont même si bien pris en vérité, cher Jean Bedel, que le mot a été repris pour d'autres lieux à Paris, en province et jusqu'à l'étranger. Je m'en rappellerai toujours ma surprise lorsqu'on m'a proposé au cours de mon premier séjour à Amsterdam d'aller faire un tour aux puces. Je pensais que c'était parisien, moi, les puces. Qu'on ne s'y trompe pas, en vérité, les puces sont bien à Saint-Ouen. Elles possèdent leur topographie, leurs habitudes, leur espace propre. Alors, comment est-ce qu'elles sont nées? Comment se sont-elles développées pour devenir l'immense chef-lieu de l'antiquité de la brocante que nous voyons aujourd'hui dans ce fief du nord de Paris? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant.
Marché aux puces sur Europe 1, extrait de la BO de Belle Fégor, célèbre série télé de l'ERTF avec l'immense Juliette Gréco. À tout de suite sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
À la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante, des vieux phonos, des vieux pianos, des vieilles armoires, des vieux grimoires qui vous racontent des tas d'histoires. Et sur les branches, façon pervenche, un poulailler bien empaillé.
Charles Trenet sur Europe 1, à la brocante, nous y allons en votre compagnie. Franck est celle de vos invités aujourd'hui. Jean Bedel, journaliste spécialiste du marché de l'art et des antiquités. Il a publié une vingtaine d'ouvrages consacrés aux meubles et objets anciens. Et puis Serge Mallier qui est président de l'association Marché Opus.
Bonjour à vous deux, merci d'être ici. Alors évidemment une vingtaine de livres signés par Jean Bedel, des centaines et des centaines de chroniques radio aussi. Et en l'occurrence un petit ouvrage qui s'appelle Saut de puces à Saint-Ouen, qui est passionnant de bout en bout. Alors quand on aime les puces, quand on a l'habitude des brocantes, vraiment, on s'y retrouve. Ce que vous nous apprenez, Jean Bedel, parce que c'est un véritable livre d'histoire que vous avez écrit, c'est que tout ça remonte loin, en fait. Il faut aller plonger en plein Moyen-Âge pour voir naître les puces.
Oui, ça se passe sur des siècles. Et quand ils exerçaient leur métier au cœur de Paris, les récupérateurs, évidemment, étaient chassés, traqués, et s'en aller souvent du centre de Paris, des abords de Notre-Dame ou du côté de la place Maubert, vers l'extérieur de Paris, parce qu'ils étaient traqués.
Alors ce qu'il faut bien dire, c'est que c'était une époque où on ne perdait rien. Tout était récupéré, à commencer bien entendu par ce qui était très important, qui était au cœur de toute une activité, c'est-à-dire les étoffes, les chiffons. Il y avait donc des chiffonniers qui venaient ramasser le moindre morceau de torchon oublié.
Oui, c'est la profession des chiffonniers qui prévalait, avec une hiérarchie assez stricte, et ils allaient d'un endroit à l'autre, d'abord récupérer, ensuite il fallait trouver un lieu de vente. Et il s'installait un petit marché qui ne s'appelait pas encore un marché aux puces, mais enfin...
Le marché des Patriarches.
Oui, notamment à Paris, au marché des Patriarches, mais dans d'autres endroits aussi, du côté de Vanves, du côté de la porte de Montreuil, enfin...
Ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'à cette époque, évidemment, il n'y a aucune dimension artistique ou de collection. On vient chercher de la récupération au départ. Hein. C'est-à-dire qu'on ne vient pas chercher les choses parce qu'elles sont vieilles, mais malgré le fait qu'elles le soient, en fait. Hein, c'est ça, on essaie de récupérer des ferrailles, notamment.
Les ferrailles et les chiffons, qui font un commerce très important, qui se compte... environ par quelques francs pour des kilos d'étoffes, de drapeaux, comme ils disent dans leur jargon. Et il y a aussi tout ce qui vient avec, et quelquefois il y a aussi des puces, mais on n'en parlait pas encore.
Non, et alors, comme toujours avec Richelieu, il y a en fait deux grands organisateurs dans la France moderne, hein, c'est Colbert et Richelieu. D'ailleurs, pour respecter la chronologie, je devrais dire Richelieu et Colbert.
Oui.
Et avec Richelieu en 1635, décision terrible, on interdit le commerce de tout ce qui est récupération, tout ce qui est objet d'occasion à l'intérieur de la capitale, pour privilégier le commerce d'objets neufs. Il faut expliquer pourquoi, bien sûr.
Hein. Oui, bien entendu. Et voilà, c'est faute de trouver des objets neufs qui paraissaient trop chers aux acquéreurs possibles que se sont institués les petits marchés constamment en évolution.
Alors à l'époque, c'était à la périphérie de la ville. Évidemment, oui. Peu à peu, Paris s'est développé et a réenglobé tout ça, hein, que ce soit au Halles, place Maubert, du côté de ce qui est aujourd'hui la Porte de Vanves, on a vu fleurir déjà des marchés, oui, qui devenaient de plus en plus importants, hein, d'ailleurs.
Ils se localisent sur les fortifs, surtout à partir de 1830, qui est la date de construction approximative des premières fortifications autour de Paris, et sur les talus des sportifs, ils viennent commencer à étaler ce qu'ils ont pu récolter.
Alors, le marché aux puces, celui dont nous allons parler, il ne naît qu'au milieu du 19e siècle. Et alors, il faut peut-être expliquer, Serge Malik, d'où vient cette naissance ? Qui l'a créé, en quelque sorte, ce marché aux puces ?
Il s'est créé par lui-même, tout simplement. C'est-à-dire que les clients venaient... Parce que c'était pas cher.
Mais c'est ça.
Bon, c'était la raison principale. J'entends dire que ça remonte au Moyen-Âge. Effectivement, je crois qu'il faut pas oublier, et Jean Bedel le sait bien, que les gens du voyage étaient également là depuis le Moyen-Âge.
Oui, oui.
Je veux dire que sur les fortifs, avant les fortifs, donc, il y avait déjà les gitans et les gens du voyage.
Et ces fortifs étaient occupés de militaires, hein, il faut dire.
Donc, à partir de 1841.
C'est ça, ouais. Oui, c'est Adolphe Thiers qui va convaincre Louis-Philippe de créer cette ligne de fortification.
Oui, qui n'a pas été un réel succès d'ailleurs.
Non, c'est moins qu'on puisse dire. Défense,
ouais. Mais c'est vrai que ça a été créé, ça n'a pas duré très longtemps. Et c'était de plus devenu une zone franche, on peut l'appeler comme ça maintenant. À l'époque, c'était plutôt une zone de non-taxe, c'est-à-dire que ça permettait aux commerçants de s'établir sans avoir à payer quoi que ce soit en termes d'octroi à l'époque ou en termes de droit de rue.
Oui, chacun prenait son bout de terrain comme il pouvait. Et... avec l'espoir qu'il ne serait pas chassé plus loin. Et c'était un lieu de promenade souvent pour les Parisiens de descendre du haut de la butte Montmartre vers Clignancourt et vers la porte qui porte le nom de Porte de Saint-Ouen.
Oui, on venait flâner, on venait s'encanailler un peu et surtout on venait beaucoup fureter.
Franck Ferrand sur Europe 1.
C'est au marché aux puces que l'on trouve toutes les sortes d'occasions.
Moi, je cherche un mireuse.
Moi, une lampe à pétrole.
Et moi, un tire-bouchon.
Il y a même des trucs de luxe.
Des costumes, des cravates, des sans-points.
Sur de telles occasions, faut sauter à pieds joints. Au marché, au plus à Saint-Ouen.
Réventura sur Europe 1 avec C'est au marché, aux puces. On en parle tous ensemble jusqu'à 14h. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez flâner du côté des puces de Vanves, de Montreuil ou de Saint-Ouen, n'hésitez pas à réagir, à témoigner sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire et sur Europe1.fr.
Alors, ce qu'il faut dire, Julia, c'est que le marché aux puces de Saint-Ouen aujourd'hui, c'est 15 marchés en vérité, hein, qui sont resserrés sur 17, enfin resserrés, qui s'étendent, devrais-je dire, sur 17 hectares. On trouve 2000 vendeurs et ce marché aux puces attire 5 millions de visiteurs par an. Ce qui fait du marché aux puces l'un des sites les plus visités de France. Je crois que c'est le 4e ou 5e site le plus visité de France. Aujourd'hui, bien entendu, on trouve beaucoup de belles antiquités aux puces. D'ailleurs, un très grand nombre de marchands ont à la fois un stand aux puces et une galerie en ville.
Ouais.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les premières puces dont nous allons parler là, celles qui ont été créées officiellement en 1880, c'était un peu la cour des miracles, hein, quand même.
Oui,
c'était les récupérateurs qui n'avaient pas le droit de vendre dans Paris, d'ailleurs.
C'était un no man's land. Oui. Dont ceux qui déballaient s'emparaient et grignotaient sur les bords de fortifs de façon à se placer comme un marché.
Et le préfet Poubelle avait fait exprès de les maintenir
oui,
à la périphérie de la ville, en fait, c'est ça l'idée ?
Eugène Poubelle avait institué les
qui
boîtes...
Qui a donné son nom aux poubelles, hein,
voilà,
du reste.
Voilà, aux oui. boîtes à ordures. Essayer de chasser les trieurs des rues de Paris, des caniveaux même... Et il se retrouvait à Saint-Ouen, où, par ailleurs, les Parisiens allaient facilement et volontiers respirer un bol d'air et manger une friture.
Oui, parce que alors évidemment, avec les marchands, afflue tout ce qui va faire l'ambiance spécifique des puces, et notamment les restaurateurs. Hein, c'est de la petite restauration populaire, un peu de graillon dans tout ça, évidemment, ça fait partie du plaisir, hein, évidemment. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette atmosphère-là, Serge Malik, il en reste quelque chose aujourd'hui ?
Oui, il reste quelque chose, mais effectivement, c'est un petit peu embourgeoisé. Hein,
objectivement.
Il faut l'admettre, mais en plus, on s'est agrandi, transformé. Vous évoquiez les 7 hectares, on peut déjà mettre... au crédit de l'avenir des puces, les 2,5 hectares qui ont été achetés par Habitat. Et a priori, il y a un projet aussi pucier qui va se développer, ce qui va agrandir le marché aux puces. On s'est agrandi, transformé, jusqu'à devenir le plus grand marché d'antiquité du monde. Sur ce territoire de 7 hectares, justement, et c'est 2000 commerçants.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, tout ça n'était pas très réglementé, puisque précisément, on avait exclu les marchands du cœur de la ville, enfin, ces marchands récupérateurs, hein, parce qu'au départ, ce sont des récupérateurs qui vendent aux puces. Et donc, c'était un petit peu, c'était une gentille pagaille.
C'était une gentille pagaille, effectivement. Ces récupérateurs, on les appelait des biffins, évidemment. Oui, voilà. Aussi des crocheteurs, puisqu'ils crochetaient dans les poubelles.
C'est-à-dire qu'ils avaient des crochets pour aller chercher les objets. Hein.
Et puis, de manière plus romantique, on les appelait aussi des pêcheurs de lune, je crois.
Des pêcheurs de lune. C'est voilà, plus c'est poétique. Mais il y a beaucoup de gravures qui témoignent de la silhouette de ces gens, ces brocanteurs, et les deux instruments essentiels de leur système, c'est la fourche pointue avec un crochet et la grande hotte en osier qu'ils portaient dans le dos, comme un biffin, c'est-à-dire un militaire avec son sac au dos.
Exactement, qui faisait peur aux enfants. Par la petite carriole à roulettes.
Hein. Par la suite,
avec les lampes à acétylène, c'était...
Alors,
pour répondre à votre question, excusez-moi, oui, effectivement, on a changé, mais on a la passion de l'avenir au plus de Saint-Ouen. Mais on est là depuis 1880, et je crois que, justement, c'est rare de voir un site à la fois historique et commercial résister ainsi à toutes les guerres économiques ou armées.
Oui,
c'est-à-dire qu'on est resté vraiment conforme à nos valeurs et à nos idées, et je crois que ce qui fait notre différence et ce qui devra faire notre différence dans l'avenir, c'est de rester dans cette lignée. On n'est pas dans le carton-pâte, on est dans le rêve, et il faut rester dans ce rêve, je pense.
Alors aujourd'hui, quand on dit les puces, ce sont plusieurs marchés. Ceux qui connaissent bien les puces savent très bien. Vous avez des adeptes de Biron, des adeptes de Serpette. Bon, le premier, il est constitué, c'est le marché Vernaison en 1920. D'ailleurs,
ancien,
on s'en rend compte quand on le visite. C'est peut-être celui qui a conservé le côté un peu le plus encore aujourd'hui, peut-être un peu
peut-être
le plus.
Peut-être avec Jules Vallès aussi.
Je pense que ces deux
marchés-là sont restés assez
authentiques.
Assez originels, on va dire. Voilà. Mais le marché Vernaison, pour la petite histoire, quand Romain Vernaison a construit ce marché, qui a été le premier, effectivement, il a utilisé les roulottes de la Croix-Rouge qui avait fait la guerre de 14-18, et il a mis en ligne ces roulottes de la Croix-Rouge pour créer ce marché. Donc c'était un marché couvert, mais couvert de drôles de manières.
Alors on va visiter ces puces avec vous, si vous voulez bien, et puis on va raconter un certain nombre d'histoires incroyables qui circulent de stand à stand et entre les allées des différents marchés. Avant ça, j'aimerais peut-être faire un petit peu d'histoire, si vous le voulez, dans le récit. Je vais vous raconter d'où vient ce commerce de l'art et ce commerce des antiquités.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui nous plonge maintenant au cœur de l'histoire des marchands d'art depuis la plus haute antiquité.
Mais oui, parce que le commerce d'objets anciens, Julia, était répandu dans l'antiquité. Alors, je pourrais remonter même dans la très haute antiquité, mais ce qu'on sait très bien, c'est ce qui se passait dans la Rome des Césars. Vous savez, à l'époque, si vous alliez du côté de la Septa Julia, le long de la Via Sacra ou près de la Villa Publica, vous aviez des marchands qui vendaient de l'art afflué de toutes les régions du monde. On connaît le cas du célèbre prêteur Verrès, qui avait une véritable armée de rabatteurs qui écumait tout l'Empire, de la Sicile jusqu'à l'Asie mineure, et ce Verrès achetait les objets qui lui tenaient à cœur à des prix absolument fous. Et du reste, on dit qu'il préféra la mort plutôt que de céder à Marc-Antoine quelques-uns de ces merveilleux bronzes de Corinthe. Il y avait déjà cette fièvre, cette collectionnite. C'était pas l'apanage des Romains, du reste, puisque si vous vous promeniez dans la Gaule, vous pouviez vous rendre compte également de la passion des Gaulois pour les objets de prix, dont certains très anciens. La Gaule possédait, vous savez, de l'or, de l'argent, c'était un peuple, les Celtes étaient des orfèvres par définition, et ils étaient des collectionneurs. On voit fleurir dès le 3e siècle avant notre ère tout un trafic d'objets, notamment d'objets anciens. Donc il faut bien être conscient que dans l'Antiquité, il y avait déjà cette passion et ce goût de l'ancien qu'on allait perdre par la suite et qu'on ne retrouvera alors vraiment chez nous que beaucoup plus tard, au tournant du XVIe siècle seulement, de façon véritable. Les Visigoths, les Francs, les Burgondes, etc. étaient des collectionneurs. Il ne faut pas oublier que Chilpéric, par exemple, on est vraiment chez les Mérovingiens, on est dans un monde, dans une culture qu'on pourrait croire assez fruste. Eh bien, en fait, Chilpéric aura été, grâce à son courtier, qui était Priscos, il aura été le plus grand collectionneur de vieille argenterie de tous les temps. Il ne faut pas oublier aussi l'importance du trésor des églises. Vous aviez, je parlais de rabatteurs tout à l'heure, vous aviez des courtiers dont l'essentiel de l'emploi au Moyen-Âge était d'aller chercher un peu partout de quoi alimenter ces trésors d'églises en objets souvent issus de l'Antiquité, réemployés pour ce qui était de l'orfèvrerie, remontés bien souvent. Et puis aussi, on alimentait les églises et les monastères en reliques. Vous savez, il y a un trafic phénoménal pendant tout le Moyen-Âge, un morceau de la mâchoire de Sainte-Apolline ou du tibia de Sainte-Pétronille, bien marchandé par des intermédiaires qui, évidemment, prenaient leur avantage au passage, se monnayaient à prix d'or. Les Arabes, avec la conquête du bassin méditerranéen au 7e, 8e siècle, vont évidemment faire évoluer le commerce des objets d'art. On voit affluer sur le marché, si je puis dire, avec un léger anachronisme, on voit affluer les tapis sarrasins, le fil d'or venu de Damas, évidemment, et puis un certain nombre de choses assez rares, des étoffes rares, parfois brodées à la gloire d'Allah et qui se retrouvent servant de chasuble pour des prêtres chrétiens notamment, enfin il y a un grand mélange évidemment. Depuis Amalfi, Gênes, Venise, les pièces de valeur vont peu à peu prendre l'habitude de remonter de foire en foire par Lyon, on prend tout le couloir rhodanien jusque dans les Flandres. Alors Beaucaire en province, Troyes et Provins en Champagne vont devenir des centres d'un véritable trafic d'objets d'art et ce qui devient très vite la capitale des objets d'art. Quand je dis très vite, c'est tôt, c'est dès le 13e siècle, c'est Paris. C'est à l'ombre des tours de Notre-Dame, c'est sur les berges de la cité que vont se déployer les éventaires d'artisans et de revendeurs, tandis que les huchiers, lapidaires, émailleurs, batteurs en feuilles, c'est-à-dire les batteurs de métaux précieux ou en fil d'or et d'argent, vont se regrouper par spécialité et l'on voit naître ce qu'il faut bien considérer comme les ancêtres de nos antiquaires actuels. Avec la chute de Constantinople en 1453, évidemment, on voit affluer un grand nombre d'objets antiques qui avaient été réservés par les Byzantins et qui d'un seul coup affluent sur le marché occidental. Malheureusement, on est en pleine guerre à l'époque, c'est la guerre de Cent Ans, c'est aussi le milieu du 15e siècle, c'est l'époque des grandes pestes. Évidemment, ça ne facilite pas le commerce, mais il faut savoir qu'il y a eu de très grands collectionneurs. Je pense au duc de Berry, bien entendu, le commanditaire des très riches heures, aujourd'hui au musée Condé de Chantilly, a été l'un des grands collectionneurs de cette période du beau 15e siècle. Alors, la Renaissance, si vous voulez, remonte d'Italie, elle va innerver l'Europe entière et l'on voit les grands collectionneurs se faire une concurrence extraordinaire à partir du milieu du XVIe siècle. Alors au XVIIe siècle, bien entendu, quand vous êtes quelqu'un de riche, quand vous avez pignon sur rue, vous devez avoir votre cabinet de curiosité qui est un peu le trésor de la maison, en quelque sorte. C'est sous le règne de Louis XV que tout ça va prendre des proportions impressionnantes. Le commerce de l'art devient alors à ce moment-là très florissant. On voit les grands collectionneurs se battre pour toutes sortes d'objets différents et notamment les objets qui viennent de très loin, de Chine, du Japon maintenant. Les familles vertes, les céladons bleus, les imaris montés vont évidemment faire la fortune de ce qu'on appelle les marchands merciers qui sont à la fois des marchands d'antiquités mais aussi des marchands de nouveautés. Ils sont là tout simplement pour aménager les intérieurs des personnes fortunées. Paris n'a pas renoncé depuis le Moyen-Âge à cette espèce de maîtrise que la ville exerce sur ce commerce-là. On voit les marchands parisiens, ceux du Pont-Neuf, du quai de la Mégisserie, etc., constitués de véritables puissances sous la Régence et sous le règne de Louis XV. Vous savez que le plus célèbre, c'est Gersin, bien entendu, qui sera à l'origine de la loi de Gersin, dont on va parler tout à l'heure. Il avait commandé son enseigne à Watteau. Connaissez l'enseigne de Gersin, de Watteau. Sa boutique à la pagode se trouvait pont Notre-Dame. Et là, on vendait toutes sortes de bibelots de goût, de meubles d'esprit, de toiles, de choix. Tout ça contribuant à populariser une espèce d'esprit de fantaisie légère qui va rester à nos yeux comme le goût de Boucher ou de Fragonard, bien entendu. Il y a de grands érudits à l'époque, de grands collectionneurs. Il faudrait parler de Caylus, il faudrait parler du marchand d'étampes Boson, intronisé par Choiseul, le maréchal de Sac. taxe de la curiosité, disait Choiseul. Vous avez parlé de Julio à l'enseigne du curieux des Indes, et c'est lui qui va notamment initier Louis XVI, et mieux que Louis XVI, Marie-Antoinette, aux arts d'Extrême-Orient. Tout ça est très très foisonnant, brillant, extraordinaire, jusqu'à ce que la Révolution, bien sûr, vienne mettre un terme. Alors là, pendant la Révolution, s'effectue pas mal de trafic, mais dans des conditions assez épouvantables, et puis il y a cette hémorragie extraordinaire qu'avait raconté Michel Beurdelet de tous les grands objets d'art qui fuient la France et qui vont se répandre à travers l'Allemagne dans toute l'Europe. Il faut attendre la restauration des Bourbons et mieux encore le Second Empire avec l'historicisme en vogue sous Louis-Philippe pour que les véritables antiquaires voient le jour. On peut dire que les premières galeries telles que nous les connaissons, elles naissent sous Napoléon III et alors là vraiment on a affaire à des antiquaires qui ressemblent exactement à ce que nous connaissons aujourd'hui. La fin du 19e, le début du 20e siècle sont marqués par l'émergence des grands courtiers, des grands marchands. Vous avez une grande figure de la Belle Époque, c'est le marchand new-yorkais Joseph Devine, bien entendu, qui va introduire dans un milieu qui jusqu'alors restait quand même relativement familier, va introduire la notion de puissance financière. Là, d'un seul coup, on achète à grand prix des choses très importantes, on les négocie internationalement et vous aurez de grands professionnels comme Jacques Seligman, comme Nathan Wildenstein, etc., qui vont évidemment créer toute la spéculation que l'on connaît sur le marché de l'art. Et cependant, on peut dire que pour la première fois, la profession d'antiquaire s'organise à ce moment-là, et tandis que le goût des vieilles choses se répand, on peut dire, à toutes les couches de la société, on voit naître, en octobre 1901, le Syndicat National des Antiquaires. Alors, il s'agit de réglementer un peu la profession, quand je dis un peu, c'est même beaucoup. Depuis, le métier a beaucoup changé dans sa pratique, disons-le, notamment par la multiplication des salons et des foires, hein, de tout ce qu'il y a de saisonnier. Évidemment, les antiquaires sont devenus une profession maintenant extrêmement réglementée, extrêmement connue, mais il y a toujours, et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans ce marché de l'art et dans ce monde et dans ce milieu-là, il y a toujours cette espèce de vibration particulière, cette espèce d'émotion dans le négoce des grands ou des petits objets. On peut dire finalement que les antiquaires et les brocanteurs sont des marchands d'émotions.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Le générique de la série télé de France 3 avec Victor Lanoux, Louis la Brocante. Oui, parce que nous parlons de la folle histoire des marchés aux puces aujourd'hui sur Europe 1, toujours en compagnie de Jean Bedel, Serge Malik et Jacques Lafont nous a rejoint. Il possède un stand de mobilier art décoratif aux puces de Saint-Ouen.
Alors Jean Bedel me faisait remarquer effectivement à l'instant que le terme même d'antiquaire a beaucoup changé de sens, puisqu'au départ, quand on parlait d'un antiquaire, on parlait de quelqu'un qui était un érudit, un grand spécialiste de l'histoire, d'où le nom d'académie comme la Société des Antiquaires de l'Ouest, par exemple. Quand on dit Société des Antiquaires de l'Ouest, ce ne sont pas des marchands de meubles ou d'objets anciens, ce sont des érudits et des archéologues. Et puis, le terme, peu à peu, en tout cas dans le public, a concerné les marchands. Je dis dans le public parce que dans le milieu, on continue à dire marchand et ça ne viendrait pas tellement à l'idée d'employer le terme d'antiquaire. Bonjour Jacques Lafont.
Bonjour.
Alors vous êtes vous un marchand justement, vous avez à la fois une galerie de classique si je puis dire et un stand opus. Qu'est-ce que vous venez chercher opus? Un autre public ou d'autres émotions?
Alors les puces c'est la base même du métier. En fait avant de s'installer en ville, je crois qu'on ne peut pas ne pas s'installer aux puces, ne pas travailler aux puces ou au minimum y aller très régulièrement car c'est là où on apprend tout. On apprend le métier aux puces, on apprend la marchandise aux puces.
Il y a quelque chose de pédagogique finalement, aussi bien pour les marchands que pour les clients du reste. Hein.
Oui, absolument. Pour les marchands, je crois que c'est vraiment le lieu incontournable pour apprendre et bien sûr pour chiner. Aujourd'hui, comme autrefois, comme l'explique si bien M. Bedel, Saint-Ouen est vraiment le lieu de toutes les trouvailles, le lieu de tous les espoirs. On y va dans l'idée, évidemment, de faire la trouvaille miraculeuse.
Alors justement, est-ce que c'est encore possible? Moi, pour vivre, si je puis dire, au milieu d'amis collectionneurs, j'ai entendu raconter des histoires absolument extraordinaires, hein, de très beaux plans aquarellés qui se retrouvaient être des plans annotés de la main de Marie-Antoinette, enfin des choses inouïes. On fait encore de grandes découvertes et de belles trouvailles aux puces, Jean Bedel ?
Oui, certainement. Et les puces ont un autre pouvoir, c'est un pouvoir créateur. Les puces relancent des modes anciennes. On a vu renaître ainsi le Napoléon III qui a été longtemps honni,
oui,
et puis
vrai,
le style de 1900, le style 1930. Il y a une évolution qui est continuelle.
Alors,
on
va venir à ces modes justement, à ces modes qu'on voit d'année en année évoluer, progresser. J'aimerais qu'on écoute une petite archive. C'était sur Europe 1 en 1985 au micro de Sylvain Attal, et c'est un marchand des puces qui raconte une anecdote. On parle là d'une grande trouvaille.
Il y a un vieux gitan qui un jour qui est venu se présenter en nous disant: est-ce que je peux vendre mon manège? Nous lui avons répondu par l'affirmative, et ce gitan s'est installé dans notre cour afin de vendre ce vieux manège tout branlant, c'est vrai. Un marchand est passé 10 minutes après, il lui a demandé: combien veux-tu de ce manège? Il a dit: je veux 2 briques. La personne lui dit: d'accord, c'est fait, je n'ai pas d'argent, je vais le chercher, je reviens, dans une heure je suis là. Sous cet entrefait, un autre marchand est arrivé, il lui a demandé: combien veux-tu de ton manège? Il dit: je peux pas, c'est vendu. Combien l'as-tu vendu? 2 briques. Et le deuxième marchand de lui dire: en veux-tu 3? Le gars dit: non, j'ai donné ma parole, en veux-tu 4? Et il est monté jusqu'à 50 briques. Et pour une parole donnée, il n'a pas voulu se dédire. Le premier marchand vient et donc paye les 2 briques. Au gitan, le deuxième marchand attendant le premier marchand lui faisant la même offre. 2 briques, 4 briques, 6 briques, il s'est monté jusqu'à 50 briques. Et le premier marchand lui répondant: non, je ne veux pas le vendre. Mais pourquoi veux-tu pas me le vendre, lui dit-il. Parce que je suis comme toi, je sais lire. Tous les panneaux du manège étaient signés Toulouse-Lautrec.
Tous les panneaux du manège étaient signés Toulouse-Lautrec. On cherche toujours de la signature. Et pourtant, je parlais tout à l'heure de Jacques Heft. Parmi les 10 conseils qu'il donne aux acheteurs, il dit « Si tu doutes d'un objet, tu ne te tromperas pas. » Enfin, ah voilà, regarde l'œuvre avant la signature. Je crois que c'est fondamental. C'est-à-dire que la signature, ça ne fait pas tout. Hein,
c'est l'instinct qui compte, c'est le plaisir, ouais. C'est la magie de l'achat. Cette anecdote de la parole donnée que je viens d'écouter me plaît beaucoup, dans le sens où c'est vrai que c'est une parole comme les Maquignon, un petit peu, hein, quand il tapait sur le cul des bêtes. Mon grand-père Malik, qui a construit le marché Malik,
oui,
n'a jamais été propriétaire du terrain Malik, c'était son jardin. Il a loué ce jardin à l'époque pour une broutille à un monsieur qui s'appelait Monsieur Bourdin. Et quand le père Malik, comme on l'appelait, a décidé de monter des boutiques dessus, il a dit: on va te doubler le loyer, mais tu me le loues à vie. Et Monsieur Bourdin a dit oui. Et ils se sont tapés dans la main, il n'y a jamais eu de bail de signer. Et les paroles ont été tenues jusqu'à la mort des deux.
C'est magnifique. C'est le marchand Hubert Duez aussi, dans ses Secrets d'un brocanteur, qui raconte comment un confrère l'avait rappelé 6 mois après lui avoir vendu un plat au pont de Nevers pour lui dire qu'il avait appris par hasard, par un confrère, que la pièce en fait avait été restaurée, et il l'appelait pour lui proposer de le rembourser.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retraçons l'histoire du marché aux puces aujourd'hui sur Europe 1, toujours en excellente compagnie.
On est dans l'atmosphère. D'ailleurs, il y a toujours un peu des petits restaurants. Il n'y en a pas des masses, mais enfin, il y a encore une guinguette où l'on chante. C'est le dimanche midi. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires.
Oui, il y a toujours Louisette, qui est un endroit tout à fait charmant, désuet.
On mange des moules et des frites.
Mais très agréable, avec une belle ambiance qui est vraiment... un petit peu le lieu le plus typique de Saint-Ouen. Mais il y a beaucoup d'autres petits restaurants aussi,
oui,
derrière, tout à fait charmants.
Petit matelot et tout ça. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'évidemment, quand on se promène aux puces, il y a plusieurs niveaux possibles. Vous pouvez juste faire une flânerie, une promenade dans les allées. Vous pouvez chercher quelque chose d'un peu spécifique et vous adresser à des marchands par spécialité, parce que généralement, maintenant, la plupart des stands ont leur spécialité. Et puis, vous pouvez aller encore plus loin, aller chez les récupérateurs véritablement, qui vont vous donner, qui vont vous indiquer les marches à suivre en quelque sorte. Les puces ne sont pas une, en fait, Serge Malik. Hein. Il faut bien expliquer que c'est un patchwork. Et puis, vous avez des gens qui n'aiment pas spécialement les antiquités, qui vont simplement là pour chercher du vintage, je dirais,
exactement,
ou des choses.
Exactement, il y a des gens qui vont flâner. Bon, quand on cite les restaurants et les bistrots légendaires, on ne peut pas oublier non plus la Chope des Puces, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et qui est là depuis 1960, qui s'appelait avant Chez Marcel, si je me étonnamment, puisque c'est Marcel Campion qui a repris.
On se retrouve là sur le Zinc.
Oui. Et je ne vais pas parler du Piccolo parce que c'est à la famille, mais c'est vrai aussi que c'est un bistrot très très ancien. C'est le plus ancien bistrot des Puces, en vérité. Et puis, oui, les clients viennent aussi. Il y a du tourisme, tout simplement. Il y a des visites touristiques. Et puis, il y a des événements qui drainent aussi des flux de clientèle. Hein. Le Festival des Puces, qui aura lieu en 2013, le 22 juin, cette année, donc. La fête des Puces et toutes les fêtes qui sont organisées par les marchés aussi.
Alors, vous, Jacques Lafont, vous êtes spécialisé dans le mobilier, on va dire, enfin, et les arts décoratifs.
Dans les arts décoratifs du XXe siècle.
Du XXe siècle, hein, oui.
Voilà, donc de 1900 aux années 70, qui sont en effet la dernière période.
Alors justement, puisque vous parlez de cette période, les années 50, 60, 70, en ce moment, il y a une forte mode pour tout ça, hein, il y a un fort attrait du public.
Oui, comme disait M. Bedel tout à l'heure, c'est vrai que les puces sont un endroit de redécouverte des époques, c'est incontestable. Il y a quelques années, les années 40 ont été très à la mode, c'est aux puces que certains grands marchands aujourd'hui en ville ont commencé à redécouvrir, à réexplorer et à faire véritablement un travail de fond.
Toutes ces grandes enfilades des années 40 qui sont restées chez les grands-mères ou dans les greniers pendant longtemps, dont personne ne voulait. Et alors maintenant, c'est la chasse. Hein.
Mais aussi les grands créateurs comme André Arbus, comme Jean Royer, Jacques Annet. Tous ces grands créateurs ont été redécouverts par des marchands qui aujourd'hui ont leur galerie rue Bonaparte, rue de Seine ou dans le carré Rive Gauche.
Il y a eu, à la fin des années 80, je me rappelle, une espèce de fièvre pour le galet. On cherchait absolument tout ce qui était verrerie de Nancy et galet, etc. Le dôme.
C'était un marché plus étranger.
Alors voilà. Ensuite, il y a eu les barbotines. Alors là, c'était acquis. Enfin, c'est assez intéressant de voir ces modes. Vous voyez les flux et les reflux, vous?
Oui, on voit véritablement, je dirais, par décennie, les jeunes marchands, en fait, car ce sont souvent les jeunes marchands qui font les modes. Les jeunes marchands arrivent et s'intéressent à une nouvelle époque.
Et oui. Et ça, c'est dont on peut acquérir des stocks pas trop chers et en quantité surtout. Hein.
Tout à fait.
Cette diversité de professionnels est capitale pour l'avenir des puces.
J'ai démarré un peu comme ça. Je n'avais pas d'argent pour faire du mobilier du XVIIIe siècle, par exemple. Et je me suis intéressé au XXe siècle, aux années 40, aux années 50, parce qu'on pouvait trouver des objets et des meubles signés, des choses de qualité, à des prix extrêmement raisonnables. Ce n'est pas pour autant qu'on les revendait très cher. Mais au moins, on avait une matière intéressante.
Mais le marché dans lequel évolue M. Lafont est justement un marché qui est typique, qui est créateur de tendance. C'est indiscutable.
Hein.
C'est lui qui fait la mode.
C'est un marché là où la mode a été rapidement admise. La mode a été admise, mais pendant longtemps, les antiquaires dignes de ce nom ont été contraints par la loi de ne vendre que des choses de plus de 100 ans.
Et oui.
Puis ça a été ramené à 30 ans pour des raisons d'exportation par
Bergerot. Alors, justement, je me rappelle très bien que dans les années 90, les antiquités du XVIIIe siècle étaient à des prix très élevés. Et un certain nombre de mes amis me disaient « Oh là là, quand je pense qu'il y a 20 ans, donc dans les années 70, on trouvait ça pour trois fois rien. » J'ai envie de dire... C'est de nouveau le cas. Il faut le signaler à nos auditeurs que ça intéresserait. On retrouve aujourd'hui des meubles notamment extraordinaires, de grandes estampilles du 18e pour des prix tout à fait abordables. Hein, il faut le dire, c'est une question de mode. En ce moment, ça n'est pas très à la mode. Ça reviendra, évidemment.
Il y a eu un déclin du 18e au cours de ces dernières années.
19e aussi, d'ailleurs.
Oui.
Moi, je dirais que les puces sont à l'image de la société. C'est-à-dire que les puces évoluent avec la société.
Exactement.
Elles sont un reflet.
Oui, absolument.
C'est une France en miniature. C'est exactement
la
même chose.
Alors, évidemment, l'afflux, vous parliez de la clientèle étrangère il y a un instant, l'afflux de clients étrangers a fait que les prix ont grimpé quand même aux puces. Là aussi, ça a été beaucoup dénoncé, d'ailleurs, par la presse. On a dit qu'on faisait des prix pour les Américains. Est-ce que c'est vrai?
Absolument. On peut pas nier que la clientèle étrangère fait monter le marché, en tout cas, certains marchés. Mais là aussi, c'est comme, je dirais, on peut le comparer au marché immobilier dans Paris. Paris et les puces c'est un lieu extrêmement visité, c'est un lieu que les étrangers veulent s'approprier, eh bien, automatiquement, les prix, en effet, s'en ressentent.
Alors, pour finir, quelques conseils à l'antiquaire débutant. Ce sont des conseils de Jacques Elft, dont je parlais tout à l'heure. Il dit 1. N'achète que les objets que tu connais. Ça mériterait de longs développements. 2. Ne crois pas aux miracles. Quoique. 3. Regarde l'œuvre avant la signature. 4. Personne n'est infaillible, seul l'ignorant croit tout connaître. 5. Tu te tromperas en achetant, mais ne te trompe pas en vendant. 6. Ne raconte pas d'histoire, il faudrait trop de mémoire. 7. Achète avec tes yeux, jamais avec tes oreilles. Autrement dit, n'écoute pas trop le baratin du marchand. 8. Si tu doutes d'un objet, vis avec lui, il finira par te parler. Alors ça, c'est une vérité extraordinaire. 9. Ne dénigre pas l'objet d'autrui, nul ne croira que toi seul as les bonnes choses. Et 10. Comme à la bourse, achète à la hausse plutôt qu'à la baisse. En voilà aussi un bon conseil.
Et un conseil de Gersin, d'ailleurs.
Exactement.
Et 11, tu ne tueras point aussi.
Ça, ce sont les... Oui, on peut dire qu'il y a chez les marchands un décalogue, en quelque sorte, et celui de Heft. Vous parliez de la loi de Gersin, je l'ai là sous les yeux si vous voulez, d'ailleurs Jean Bedel, hein. On court beaucoup moins le risque d'être dupe quand on ne donne en quelque genre que ce soit que dans le beau et le parfait, disait le grand marchand Gersin au XVIIIe siècle, quoiqu'à un gros prix, que quand on se contente de choses médiocres parce qu'elles paraissent à un prix bien inférieur. Dans le médiocre, il y a presque toujours le tout à perdre, disait-il. Donc en fait, il vaut mieux acheter cher une chose de grande valeur qu'acheter à bon prix un objet moyen.
Absolument,
c'est ça l'idée.
C'est une règle essentielle. Il faut acheter le plus cher possible en le payant le moins cher possible.
Est-ce qu'il y a dans toute votre incroyable expérience Opus, Jean Bedel, des moments qui vous ont marqué particulièrement? Vous avez des souvenirs particuliers?
Il y a des anecdotes, notamment au marché Malik. On pose souvent la question de savoir s'ils sont spécialisés, les antiquaires des puces. Il y a quelques spécialistes, mais les marchés ont la commodité pour tous d'offrir un très large choix d'échantillons dans des époques diverses, de meubles divers. Et enfin, c'est cette différenciation très grande qui est caractéristique des puces.
Est-ce qu'il y a une continuité, j'allais dire, dynastique ou familiale dans les stands des puces, Serge Malik? Vous êtes un exemple, vous, d'une grande continuité familiale.
En me posant la question à moi, vous tapez un petit peu dans le mille. Mais il y a effectivement certaines familles qui sont là depuis plusieurs générations. Je ne suis pas le seul. Je peux citer la famille Roland, effectivement, qui est là depuis 4 générations. Et je pense qu'il y a des familles d'antiquaires aussi qui sont là depuis très très longtemps, hein, Monsieur Lafont.
Il y a quelques familles, mais enfin, il y a énormément aujourd'hui de jeunes marchands qui se lancent dans l'aventure par passion. Sans avoir de...
C'est vrai que parents. Le fait qu'ils apportent ce 109, ça enrichit vraiment le milieu, cette diversité. C'est très important, on s'en rend compte au sein du MAB de l'association.
Il ne faut pas oublier, hein, je le dis à chaque fois que nous faisons, ce n'est pas très fréquent d'ailleurs, mais que nous faisons une émission en rapport avec le marché de l'art, il ne faut pas oublier que c'est un métier, hein, d'être brocanteur ou antiquaire. Souvent, quand on se promène le samedi ou le dimanche ou le lundi matin, on voit des gens qui ont l'air d'attendre les bras croisés dans un stand, on se dit que c'est un métier où on ne fait pas grand-chose. En vérité, il y a tout le reste. Hein. Il faut aller chercher les objets, il faut les envoyer à l'atelier, il faut les surveiller, leur restauration, négocier, il faut chiner.
Et surtout, c'est un métier qui est basé sur la connaissance.
Exactement.
Et 80% de la marchandise échangée se fait entre marchands.
Merci à Serge Malik et à Jacques Lafont. Merci à vous, Jean Bedel. Je rappelle le titre de votre très joli livre avec une préface de Philippe Stark, s'il vous plaît. C'est aux éditions Monel Ayot et ça s'appelle « Saut de puce à Saint-Ouen ». Merci beaucoup, comme d'habitude, à Lorena Martin, à Marion Sauveur, à Guillaume Vassot et merci à Christophe qui aujourd'hui, dans Au cœur de l'histoire, réalisait sa première émission.